Bonjour et bienvenue. C'est l'émission Les Voix de service quotidien de ce 26 avril 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Jean-Sébastien Laliberté.
Bon 26 avril, Hélène.
Bon, alors, c'est pas tellement ensoleillé encore aujourd'hui, mais paraît-il, j'ai entendu entre les branches que demain, il fera 23 degrés. Ce sera presque l'été demain.
Et pour paraphraser quelqu'un d'autre, « mal craire quand mal wear ». Je regarde les prévisions météo depuis plusieurs jours et puis à chaque jour, on nous annonce « Ah, finalement, ça va être du soleil. Ah, finalement, ça va être de la pluie. Finalement, ça va être chaud. Finalement, ça va être froid. » Donc, qui vivra, verra.
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on vit le moment présent.
Et on va vivre également la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle qui se présente sous deux grandes formes. La propriété industrielle avec les inventions. Donc, on parle de brevets, on parle de marques, de dessins et de modèles industriels. Et bien sûr, celui qu'on connaît peut-être un peu plus, le droit d'auteur, bon, qu'on connaît plus, mais qui est quand même assez complexe, le droit d'auteur qui comprend les œuvres littéraires et artistiques, peinture, sculpture, pièces musicales, etc. On va vivre encore dans le moment présent tout en se rappelant ce qui s'est passé un 26 avril dans notre histoire. On débute en 1607, donc c'est un nous inclusif pour notre histoire. On s'en va en Virginie, aux États-Unis, fondation de la première colonie anglaise permanente en Amérique. Et restons en Virginie, 1865, dans une grange cernée par la police, 12 jours après avoir assassiné le président Abraham Lincoln, John Wilkes Booth est tué. En 1900, poussé par le vent, un incendie parti de Hull atteint Ottawa. Le sinistre fera 7 morts et plus de 15 000 sans-abri. 1915, à Londres, par un accord secret, l'Italie se range dans le camp allié durant la Grande Guerre. 1920, à Montréal, un juge statue que les avis dans les commerces doivent être bilingues. En 1933, création de la Gestapo, la police secrète nazie. Toujours un 26 avril 1937, en Espagne, cette fois, Guernica est bombardée par l'aviation nazie. Alliée à Francisco Franco, la tuerie inspira bien sûr la grande muraille célèbre de Picasso. 1959, durant son voyage en Amérique du Nord, le nouveau président cubain Fidel Castro s'arrête à Montréal. 26 avril 1963, on parle du massacre du 26 avril en Haïti. 1968, sous le désert du Nevada, le Pentagone fait sauter une bombe atomique d'une mégatonne. Je n'ai que des questions à savoir pourquoi, comment, est-ce que c'est bon pour la planète, l'environnement et à quoi bon. Mais bon, je m'égare un petit peu. 26 avril 1979, la Cour d'appel du Manitoba invalide la loi de 1890 qui interdit le français devant les tribunaux et à l'école au Manitoba. Donc 26 avril, deux événements pour l'avancement du français dans le pays. Et 1986, possiblement l'événement le plus marquant de cette chronique, l'explosion d'un réacteur à Tchernobyl en Ukraine, bien sûr, provoque le pire accident de l'histoire du nucléaire civil qui fera des milliers de morts au courant des années, zone qui n'est pas encore tout à fait sans risque encore aujourd'hui.
Les effets sont encore dévastateurs.
26 avril, les naissances et les décès, quelques petits noms pour poursuivre dans la thématique de la semaine.
Je vous vois venir.
La naissance de l'empereur romain Marc Aurèle en l'an 121 et en 1904 du cardinal Paul-Émile Léger. Décès en 1984 du jazzman William Bassy, qu'on surnommait Count Bassy, et 1731, l'aventurier et romancier anglais Daniel Defoe, lui qui nous a donné les aventures, notamment de Robinson Crusoe. Et petite pensée pour dire que c'est ma dernière chronique avant quelques temps, puisque je serai en vacances la semaine prochaine. Alors, je vous retrouverai au début, milieu du mois de mai.
On va s'ennuyer de vous, Jean-Sébastien.
Oh, et un autre petit message. Oui. C'est pareil, je souhaite bonne fête à ma maman aujourd'hui.
Bonne fête, la maman de Jean-Sébastien. Quel est son prénom?
Diane.
Bon anniversaire, Diane. À la une de la presse plus, des rénovations sous la loupe, l'unité permanente anticorruption s'est intéressée à la fin de l'année 2016 aux travaux effectués par l'ancien premier ministre à sa résidence de Westmount. On parle de Jean Charest ici. Histoire montréalaise sur le bord de la traque, le premier volet de notre série à lire tous les mercredis. Inconduite sexuelle, pas d'accusation contre Pierre Paradis. Et à propos de ce qui se passe avec l'UPAC, Jean Charest, Bibeau, etc., Yves Boisvert, c'est une chronique intitulée « Surtout ne rien faire ». Et la chronique de Mario Girard, « Les adieux de la belle folle », alors qu'on voit une photo de Clémence Desrochers qui tirait sa révérence hier soir sur une scène du côté de Gatineau. Jean Charest des rénovations sous la loupe à la toute fin de 2016 dans le cadre de l'enquête Mâchuré sur le financement politique du Parti libéral du Québec, l'unité permanente anticorruption s'est intéressée aux rénovations faites par Jean Charest à sa résidence de Westmount. Comme l'a appris la presse, des enquêteurs de l'UPAC se sont rendus à l'hôtel de ville de Westmount le mardi 8 novembre 2016 pour obtenir tous les documents faisant état des travaux effectués à la maison de M. Charest. Ils ont donc en main une copie de tous les permis de construction délivrés par la municipalité, la description des travaux prévus, leur valeur estimée et l'identité des entrepreneurs et des professionnels impliqués dans chacun des dossiers. Aucune accusation n'a été déposée contre Jean Charest dans ce dossier. L'UPAC a procédé avec un mandat de perquisition ordonnant à Westmount de lui fournir les documents en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La loi stipule qu'un organisme ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée, sauf dans des cas précis et selon des conditions strictes. C'est le cas pour un organisme chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. L'UPAC a refusé hier de confirmer les vérifications concernant les rénovations au domicile de M. Charest. À la ville de Westmount, on s'est borné à rappeler que le processus d'accès aux documents publics est confidentiel. Ces éléments s'ajoutent aux révélations faites lundi par TVA et le Journal de Montréal concernant l'enquête Mâchuré et l'intention des policiers d'intercepter les conversations téléphoniques de M. Charest sans qu'on sache si, finalement, ils en avaient eu l'autorisation par un juge. En réplique hier, Jean Charest a souligné qu'aucun dossier n'avait été transmis au procureur. « Je ne ferai aucun autre commentaire si ce n'est pour réaffirmer mon innocence face aux allégations qui circulent », a dit Jean Charest dans une déclaration écrite. L'enquête Mâchuré sur le financement du PLQ cible une trentaine de personnes. Outre M. Charest et l'homme d'affaires Marc Bibeau qui agissait comme collecteur de fonds, les enquêteurs ont dans leur ligne de mire l'ex-ministre Lynn Beauchamp et la responsable du financement du PLQ, l'ex-ministre Violette Trépanier. De nombreux échanges de courriels entre Mme Trépanier et Marc Bibeau sont susceptibles de placer à nouveau le gouvernement dans l'embarras dans les prochains jours, a-t-on appris. En fin d'après-midi, l'UPAC a annoncé qu'une enquête interne était déclenchée afin de déterminer l'origine de la fuite policière. Et à propos de cette histoire, surtout ne rien faire, la chronique d'Yves Boisvert, une enquête pour corruption qui vise l'ancien premier ministre du Québec, c'est du jamais vu. Devant une situation aussi grave, le gouvernement doit faire une chose de toute urgence, rien. Surtout, s'il vous plaît, ne faites rien. Ce n'est pas le travail des politiciens de se mêler des enquêtes policières et des accusations criminelles, encore moins quand il s'agit d'un politicien du parti au pouvoir. Quelqu'un devrait expliquer à Jean-François Lisée, à Amir Kadir et à la Coalition Avenir Québec le principe de la séparation des pouvoirs. On a déjà eu trop d'avocats au Parlement. Je crois qu'on a trop de docteurs, là. Philippe Couillard est sommé de faire toute la lumière sur une enquête en cours. Pitié, non. Est-ce que M. Lisée se rend compte de ce qu'il exige? Quoi? Le premier ministre du Québec devrait appeler le commissaire de l'unité permanente anticorruption et lui demander des nouvelles d'une enquête confidentielle? Le convoquer à l'Assemblée nationale pour le cuisiner et bien faire capoter l'enquête? On a créé une unité policière anticorruption dirigée par un commissaire exactement pour éviter l'apparence d'immixtion politique. On ne va pas saper son indépendance chaque fois qu'il y a une fuite dans un média. Ce n'est évidemment pas une mince affaire, ce dont il était question hier dans le Journal de Montréal. On savait qu'une enquête visait l'homme d'affaires Marc Bibeau. On savait que Jean Charest était collé sur lui pendant son règne. Mais on ne savait pas que l'enquête était encore active l'automne dernier et qu'elle avait cette allure-là. Sauf que la nouvelle n'indique nullement un blocage de l'enquête. Au contraire, depuis des années, sous plusieurs partis au pouvoir, une enquête criminelle visant le grand financier et influenceur libéral Bibeau, en plus de Jean Charest, était active. Ça indique plutôt que l'UPAC travaille indépendamment du pouvoir politique. Pas d'accusation contre Pierre Paradis en exclusivité dans la presse d'aujourd'hui, mise à l'écart du gouvernement et du caucus libéral en raison d'une enquête sur une inconduite sexuelle alléguée. Le vétéran de l'Assemblée nationale, Pierre Paradis, ne fera, selon toute vraisemblance, l'objet d'aucune accusation criminelle. Selon les informations colligées par la presse, la Sûreté du Québec ne peut transmettre au directeur des poursuites criminelles et pénales des preuves pouvant étayer une plainte d'agression ni même de harcèlement à l'endroit de son ancienne chef de cabinet, Valérie Roy. Quatre faits allégués par la plaignante ont déjà été divulgués. Le ministre aurait dégrafé le soutien-gorge de son employé à travers ses vêtements. Il lui aurait donné une tape sur les fesses en marge d'une réception. Assis en face d'elle, il aurait pris son pied pour le mettre entre ses jambes sur son siège. Et finalement, il lui avait demandé de lui appliquer du Voltaren, un onguent pour réduire ses maux de dos. L'événement du Voltaren semble corroboré. Il avait déjà demandé la même chose à d'autres employés politiques, des employés EES. « On est devant des gestes déplacés, pas d'infraction criminelle », explique une source proche de l'enquête, pour qui il est évident qu'on mettra vite de côté les soupçons d'agression. Une poursuite pour harcèlement est toujours possible selon le code criminel. Une nouvelle vocation pour l'ancien planétarium Dow, fermé depuis 2011 et cédé à l'École de technologie supérieure par la Ville de Montréal 2 ans plus tard, l'édifice de l'ancien planétarium Dow a finalement un avenir si tout se passe comme prévu. Il hébergera un incubateur d'entreprises dès le début de l'an prochain. C'est Centech, un organisme à but non lucratif rattaché à l'ETS, l'École de technologie supérieure, accueillant des entreprises en démarrage qui héritent de l'espace reconverti. Il a fallu trouver les fonds pour démarrer ce type de projet. C'est ce qui a pris beaucoup de temps dans une université. Le processus est long pour obtenir des fonds, explique Pierre Dumouchel, directeur général de l'ETS. L'argent est venu de Québec, qui investit 3,4 millions dans le projet, mais aussi du gouvernement fédéral, qui y verse 3,3 millions. L'ETS refuse pour l'instant de révéler la somme totale requise pour la reconversion du bâtiment inauguré en 1996. L'ancien planétarium devrait accueillir ses premiers aspirants entrepreneurs dès mars 2018 et on souhaite qu'il devienne en quelque sorte l'icône du quartier de l'innovation. La SAQ n'a pas étudié la possibilité de vendre du cannabis, même si les intentions du gouvernement fédéral sont connues depuis 1 an et demi, et malgré une campagne de ses employés, la Société des alcools n'a jamais étudié la possibilité de vendre du cannabis. La raison est simple, a indiqué son président hier, le gouvernement Couillard ne lui en a jamais donné le mandat. On n'a rien d'amorcé à cet égard, a résumé le président de la Société d'État, Alain Brunet.
On week and she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.
Bitty Boppy Betty, better known as Billy, he's the up-and-coming local DA. A fearless crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. But after work on Fridays, off comes his necktie and on come her diamonds and pearls. You better get ready, 'cause now Billy's Betty, everybody's favorite girl.
The underbelly of the city, that's where you'll find Betty, Friday to Sunday night. Is she working undercover,
or just a fun lover?
Either way, that's all right.
Bitty Boppy Betty, what a bouncy beauty, so sophisticated and refined. She's a boy who doesn't show it, and though the guys all know it, none of them seems to mind. When Betty starts a bopping, the joint starts a hopping, she can twist and bend the whole night through. You really can't ignore her, and if you don't adore her, there might be something wrong with you.
And Billy working hard on behalf of our town, upholding law and order, talking to reporters, and keeping us safe and sound. If there's a moral to this ditty, it's not to judge Betty, Billy, or anyone, 'cause life's a lot richer with a healthy mixture, not to mention lots more fun.
Bitty boppy Betty, bitty boppy Betty, bitty boppy Betty, boo boo. One week and she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.
On vient d'entendre la musique très sympathique de Pink Martini avec la pièce Bitty Boppy Betty. La raison pour laquelle on entend Pink Martini ce matin est que la programmation du Festival de Jazz de Montréal a été annoncée hier en fin de journée et Pink Martini est un des très nombreux et très talentueux groupes qu'on pourra avoir la chance de voir et d'entendre dans le festival de cet été.
À la une du Devoir de ce mercredi 26 avril 2017, enquête sur Jean Charest, l'UPAC cherche la source de la fuite. Éducation sexuelle, bilan mitigé de l'an 1 du projet pilote. Une belle photo, Yannick Nézet-Séguin au Metropolitan Opera. Le hipster octogénaire Charles Plimel raconte la contre-culture américaine. Omar Kader, la bataille de Maître Denis Enné. Voix d'œuvre, Québec passe à l'action, Ottawa se fait tirer l'oreille. Et Le Monde, présidentielle française, Emmanuel Macron se défend de tenir sa victoire pour acquise au second tour. Le gouvernement Couillard a insisté mardi sur l'importance de découvrir la source qui a permis la mise au jour de détails d'une enquête de l'Unité permanente anticorruption sur l'ex-premier ministre Jean Charest, disant s'inquiéter davantage de l'intégrité du processus judiciaire que des soupçons pesant sur l'ancien chef du Parti libéral du Québec. L'annonce de l'Organisation de la lutte contre la corruption est venue clore une journée agitée à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Couillard a essuyé des attaques de tous les partis au lendemain de révélations de TVA, voulant que Jean Charest et l'ancien collaborateur de Fonds libéral Marc Bibeault eussent été ciblés par des enquêtes de l'UPAC jusqu'à l'an dernier. Maintenant, à moins que mon collègue ne me signale un seul cas qui touche le gouvernement que je dirige depuis 2014 et le parti que je dirige depuis mars 2013, Je ne vois pas l'utilité de pousser cette discussion plus loin. Les autorités en prendront acte, a finalement déclaré Philippe Couillard, pressé de questions au Salon Bleu. Improvisation, retard, malaise au sujet du contenu pédagogique, une série de difficultés a marqué la première année du projet pilote d'éducation à la sexualité dans 18 écoles primaires et secondaires du Québec, révèle un bilan obtenu par Le Devoir. Pour dresser ce bilan, daté du 20 avril 2017, le ministère a envoyé un questionnaire à tous les enseignants, tous les professionnels, toutes les directions d'école et tous les responsables de commissions scolaires qui prennent part au projet pilote de 2 ans. Le faible taux de réponse, notamment auprès des directions d'école, aucune école privée n'a répondu au questionnaire, incite les analystes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à recommander la prudence dans l'interprétation des résultats. 18 écoles ont été choisies pour participer à ce programme amélioré d'éducation à la sexualité, qui s'étend sur toute la durée des études primaires et secondaires. Devant les difficultés qui s'accumulaient, une école s'est retirée du projet pilote. Globalement, les directions d'école primaire et surtout les directions d'école secondaire étaient peu à l'aise avec le contenu des apprentissages en éducation à la sexualité, indique le document. Bien que collectivement toute l'équipe soit volontaire pour participer au projet pilote, quand est venu le temps de s'impliquer individuellement, personne n'a voulu s'impliquer, dit un cadre scolaire dans le bilan. Le maire Denis Coderre a annoncé mardi sur Twitter que Montréal portera en appel le jugement de la Cour supérieure qui l'a condamné à verser 15,9 millions de dollars au syndic à la faillite de la société de vélos en libre-service qui a géré Bixi jusqu'en avril 2014. Les détails sur la contestation de la ville suivront la semaine prochaine, a fait savoir le maire. La semaine dernière, le juge Martin Castonguay a conclu que la Ville de Montréal n'avait pas le droit en 2011 de se livrer à des activités commerciales en prêtant de l'argent au syndic à la faillite de la société de vélo en vertu de la loi sur l'interdiction de subventions municipales. Le juge Castonguay a condamné la Ville à verser 15,9 millions à Litwin Bouyadjian, la firme responsable de liquider la SVLS. Les résidents de l'île du Prince-Édouard sont les rois du recyclage et du compostage au Canada. De récentes données de Statistique Canada démontrent que la petite province est celle qui, par habitant, achemine le moins de déchets ménagers sites d'enfouissement grâce au recyclage ou au compostage. Selon des données de 2014 sur la gestion des déchets, les résidents de l'île du Prince-Édouard ont réussi à sauver de l'enfouissement en moyenne 429 kg d'ordures ménagères alors que la moyenne nationale était de 255 kg par personne. La Colombie-Britannique arrive en deuxième place avec 358 kg, suivi du Québec à 324 kg. Ça fait déjà 14 ans. On ne sait plus si c'est de l'exaspération ou de la lassitude dans la voix de Denis Henné, l'avocat du citoyen canadien Omar Kader, qui célébrera le 7 mai prochain ses 2 ans de liberté retrouvée après avoir connu le camp de Guantanamo et les prisons canadiennes, peut-être bien les deux. Cette saga de 14 ans doit connaître son dénouement. Le gouvernement canadien doit maintenant s'excuser au nom de tous les Canadiens pour les abus et la torture perpétrés à l'endroit d'Omar Kader. C'est le message le plus important de tous, bien plus que les 20 millions demandés en compensation, selon lui, que porte Maître Henné ces jours-ci en tournée dans les grandes villes canadiennes. Je suis ici pour demander aux Canadiens d'interpeller leur gouvernement pour qu'ils s'excusent, répète-t-il avec fermeté, blâmant le gouvernement fédéral, d'abord libéral, puis celui du Parti conservateur de Stephen Harper, d'avoir fait la sourde oreille et de ne jamais avoir rapatrié son client. Québec refuse d'expliciter sa décision de déplacer vers un zoo de Saint-Félicien la harde de Val-d'Or, même si le gouvernement Couillard affirme que le transfert en captivité des derniers caribous de la région de Val-d'Or est la seule solution pour les sauver. Il refuse de fournir les éléments factuels ou les documents sur lesquels il se base pour justifier cette décision sans précédent au Québec. Les documents que nous avons consultés sont des documents internes, a finalement répondu mardi Gabriel Fallu, l'attaché de presse du ministre Luc Blanchette. Ils ne sont pas publiés, a-t-elle ajouté dans une brève réponse transmise par courriel. Pour Monsieur Marco Festa Blanchette, professeur titulaire au département de biologie de l'Université de Sherbrooke, la décision du gouvernement Couillard ne change rien au problème que vivent les populations de caribous forestiers au Québec. Il faudrait, selon lui, mieux protéger leur habitat si on veut éviter le déclin continu de l'espèce. Greenpeace, la Fondation David Suzuki et l'Action boréale ont d'ailleurs réitéré mardi l'urgence d'agir pour éviter que d'autres hardes de caribous ne subissent le même sort que celle de Val-d'Or. Les habitats de ces cervidés sont de plus en plus convoités par l'industrie forestière, mais aussi pour le développement de projets miniers. La région de Lanaudière continue de payer le prix de la fonte des neiges jumelées aux fortes pluies. Mardi, une portion importante de la rue Queen à Rawdon s'est affaissée, créant un cratère d'une vingtaine de mètres de profondeur. Le directeur général de la municipalité s'attend à ce que le cratère s'agrandisse davantage avant que la situation ne puisse être contrôlée. La réparation nécessitera de 2 à 3 mois de travaux. Et pour terminer, le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelly, a insisté lundi sur l'importance de consulter les Premières Nations à propos de la légalisation de la marijuana, un processus qui n'a cependant ni été entrepris ni été planifié à court terme par Ottawa ou Québec. On se retrouve après la pause et la chanson avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Mon amour.
le chanteur Guillaume Beauregard, auteur, compositeur, interprète, oui, Guillaume Beauregard avec la pièce Indem sur les ondes de Canal M.
À la une du Journal de Montréal, enquête sur le financement politique. Alors qu'on voit une photo de Marc Bibeau, l'UPAC s'intéresse à des baux du gouvernement. Le Tribunal administratif du travail, emploi et solidarité sociale et la Régie du logement sont situés dans cet immeuble, qui est aussi photographié en une du Journal de Montréal. Cet immeuble de Saint-Hyacinthe qui appartient à Beauward, une compagnie de Marc Bibeau. L'enquête devait pourtant prendre fin à Noël. Des chroniques à ce sujet, tellement de questions. Richard Martineau, qui était le patron? José Legault. Faire la lumière, Claude Villeneuve. La police enquête entre autres sur les contrats de location conclus entre une entreprise de Marc Bibeau et des organismes publics sous le gouvernement libéral, a découvert notre bureau d'enquête. Notre bureau d'enquête a pu obtenir les contrats liant la Société immobilière du Québec et les entreprises de M. Bibeau, mais les montants du bail en cours ont été caviardés. Au total, nous avons comptabilisé une quarantaine de contrats de location gouvernementaux dans des immeubles qui appartiennent à la firme de Bibeau, répartis à travers une vingtaine d'organismes provinciaux. Par ailleurs, une autre compilation des baux de la Société des alcools et de la Société d'assurance automobile effectuée par notre bureau d'enquête permet de constater qu'une succursale sur cinq est établie dans un édifice appartenant à des donateurs du Parti libéral du Québec. La coalition Avenir Québec réclame au gouvernement depuis quelques semaines les baux commerciaux de la SAQ. Pour la première fois hier, le président de la SAQ, Alain Brunet, s'est dit ouvert à divulguer ces informations aux élus, mais seulement au cours d'une entrevue à huis clos. En pleine commission Chamberlain, l'unité permanente anticorruption se lance dans une chasse aux sources afin d'identifier l'origine de la transmission de documents confidentiels sur Jean Charest et Marc Bibeau à notre bureau d'enquête. Trois semaines après le début des audiences de la commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, le commissaire à la lutte contre la corruption, Robert Lafrenière, a annoncé le déclenchement d'une enquête interne à la suite des révélations faites par le journal et TVA Nouvelles. L'enquête aura pour objectif d'identifier l'origine de la transmission de documents confidentiels qui a permis la diffusion publique de certains éléments d'une enquête criminelle active, a précisé l'UPAC en fin de journée mardi. Il n'est pas dans l'intérêt commun que des documents et des contenus d'enquête soient étalés sur la place publique, a déclaré le grand patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, par voie de communiqué. Des drones de plus en plus chargés. Le phénomène va aller en empirant, prévient le président du syndicat des agents correctionnels. Les livraisons de contrebande dans les prisons à l'aide de drones sont plus fréquentes que jamais et de plus en plus imposantes. Tabac, drogue, cellulaire, montres intelligentes et même jeux vidéo tentent maintenant de franchir les murs par les airs. Aujourd'hui, les drones sont plus évolués. Ça peut supporter des charges de 1,5 kg. Ça fait beaucoup de contrebande et c'est très lucratif, déplore Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix, en service correctionnel du Québec. En quelques années, le phénomène des drones comme moyen de livraison de contrebande en prison a explosé. Depuis avril 2016, le ministère de la Sécurité publique a recensé 106 vols de drones autour des prisons québécoises, principalement à Montréal. C'est presque quatre fois plus que l'année précédente où seulement 27 vols avaient été observés. Des mesures ont été prises pour exercer une meilleure surveillance, a réagi une porte-parole du ministère de la Sécurité publique qui affirme qu'un plan d'action est en place. « un ex-chroniqueur à la circulation à la Ville, Pierre Lacasse, tentera d'améliorer la fluidité du trafic. La Ville de Montréal nomme un ex-chroniqueur à la circulation comme conseiller et porte-parole pour coordonner les chantiers et les grands travaux de la métropole. Le comité exécutif approuvera ce matin l'embauche de Pierre Lacasse, qui doit ensuite être annoncée par le maire Denis Coderre à 10 heures, a appris le journal. Alors, ça a été annoncé il y a quelques minutes. C'est la première fois qu'une personne sera exclusivement responsable de la circulation à Montréal. Il a été possible d'apprendre que le contrat de Pierre Lacasse est d'une durée de 3 ans et lui rapportera un salaire annuel de plus de 100 000 $. Et selon Jean-Sébastien Laliberté, la nouvelle n'a pas encore été annoncée en ce qui a trait à l'embauche de Pierre Lacasse. Ça viendra bien. Un jour. Aujourd'hui, c'est prévu. Métro en marche avec une porte ouverte. Le tout est survenu entre les stations Pie-Neuf et Joliette. Des usagers de la STM ont vécu un parcours hors du commun lundi soir sur la ligne verte alors que la porte d'une voiture est restée ouverte entre deux stations. Dans une vidéo publiée sur Facebook, on peut voir qu'une des portes d'un des wagons est ouverte alors que le train est en marche normalement. Hier après-midi, la vidéo cumulait plus de 130 000 vues sur le réseau social. C'est entre les stations Pie-Neuf et Joliette, aux alentours de 22 heures lundi, que la porte serait restée ouverte. Ce n'est qu'à la deuxième station que l'opérateur l'aurait fermée manuellement avant de repartir sans qu'il y ait d'autres accrochages connus. La Société de transport de Montréal ne cumule pas de statistiques reliées à ce type d'incident. Mais c'est très rare des cas comme ça, affirme Isabelle Tremblay, porte-parole de la Société de transport de Montréal. On est d'ailleurs déjà en investigation. Liu Chang-Kuang demande à son unique adversaire de la course au bâtonnat, Paul-Mathieu Grondin, de rembourser au barreau du Québec des sommes qu'elle estime qu'il a illégalement perçues. Maître Kuang est d'avis que son principal concurrent a réclamé plus que ce à quoi il avait droit pour leur présence aux réunions du CA du barreau. N'importe quel avocat digne de ce nom sait que l'article 5.07 du règlement sur la conduite des affaires du barreau impose des émoluments de 300 $ par séance du conseil d'administration. Maître Grondin a réclamé 800 $, ce qui témoigne de son mépris pour la règle de droit et de son incapacité de gérer convenablement les fonds du barreau, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Élue en mai 2015 au poste de bâtonnière du Québec, Liu Chang-Kuang a dû finalement quitter son poste dans la controverse promettant de se représenter au bâtonnat en 2017. Photo assez impressionnante. Un automobiliste a eu une bien mauvaise surprise après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur le boulevard Gouin-Ouest, non loin du boulevard Pittfield, dans l'arrondissement Downsick-Cartierville, alors que sa voiture a été submergée. Le ruisseau Bertrand est récemment sorti de son lit et a complètement inondé un boisé donnant sur le boulevard Gouin-Ouest. Sur la photo, donc, un expert extirpe le véhicule de sa fâcheuse position. Un incendie criminel a éclaté hier au complexe funéraire Loreto dans l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal. Au moins un bidon d'essence a été retrouvé sur place à l'arrière du bâtiment. Devant ces constatations, les pompiers ont transféré l'enquête à la division des incendies criminels de la police de Montréal. L'incendie a pris naissance en début de matinée. Les flammes ont été rapidement maîtrisées par les pompiers. Les dommages ont été limités. Le complexe funéraire est bien connu parce qu'il a accueilli les funérailles de nombreux membres de la mafia montréalaise. Aucune arrestation n'a encore été effectuée dans cette affaire et personne n'a été blessé. La Cour suprême doit maintenir la confiance du public en attendant d'améliorer les détails de justice, ont soutenu les avocats du Québec devant la Cour suprême hier. En attendant que les mesures soient efficaces pour accélérer les procès, il faut maintenir la confiance du public envers la justice. Il faut éviter que la confiance du public s'écroule, a demandé l'avocat du Québec, Maître Rochette, aux 9 juges de la Cour suprême. Le juge Richard Wagner a admis que quelque 800 procès sont visés par une demande d'arrêt des procédures dans la province et a demandé les suggestions de ses représentants.
Je voudrais être un ange et puis vivre au paradis. Là, tout le monde est heureux, il y fait beau à ce qu'on dit. J'aimerais faire le voyage un jour, ce qui m'inquiète un peu. Y a pas de ticket pour le retour du paradis tout bleu. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne. Personne ne veut mourir. Mon oncle est un avare, il se meurt de privation. Il a une fortune en banque, il est riche à millions. Son docteur dit qu'il va mourir, mon oncle dit oh non. Moi je me refuse à partir en laissant mes millions. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. J'ai fait le rêve étrange que je bats. Je me suis trouvée toute seule au désert éternel. Je n'ai vu que Saint-Pierre à la porte avec les larmes aux yeux. Il m'a expliqué pourquoi il était si malheureux. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Non, personne, personne, personne ne veut mourir.
Que de sagesse, cette Petula Clark. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir.
Histoire montréalaise. Montréal fête ses 375 ans. On pense tout connaître de la ville et pourtant. Tous les mercredis, découvrez les récits de nos chroniqueurs partis sillonner les rues de l'île à la recherche d'histoires surprenantes et inédites. C'est un texte de Michel Ouimet. Alors, je vais vous lire le premier de cette série, intitulé « Sur le bord de la traque ». Nancy Morris n'a pas hésité lorsqu'elle a acheté une maison collée sur les voies ferrées du CN à Pointe-Saint-Charles. À l'époque, elle avait une vision romantique des trains. Je trouvais ça charmant. C'était l'hiver, ses fenêtres étaient fermées. Quand l'été s'est installé, la réalité lui est rentrée dedans comme une tonne de briques. Le vernis romantique des trains a vite sauté et son petit paradis s'est transformé en enfer. Il n'y a pas une voie ferrée, mais cinq. Le trafic est intense. En 24 heures, 63 trains passent sous les fenêtres de Nancy, de jour comme de nuit. 33 trains de passagers et 30 de marchandises, chiffre de 2014. Ces derniers transportent parfois des matières dangereuses et comprennent jusqu'à 200 wagons. Des trains lourds et bruyants qui s'arrêtent souvent devant la maison de Nancy pour effectuer des manœuvres. La gare de triage est proche. Le pire, c'est le crissement des roues sur les rails, dit Nancy. Ça fait un graissement aigu, assez intolérable. Nancy et son copain, Philippe Beaudoin, ont acheté leur maison en 2013. Ils y ont investi 150 000 $ en rénovation. Ils ont construit une rallonge, ouvert la pièce principale, mis à nu les poutres, percé des puits de lumière, aménagé une jolie cour. Ils vivent au deuxième étage de leur duplex, vis-à-vis des voies ferrées qui sont surélevées. Pendant l'heure que j'ai passée chez eux, 6 trains ont circulé devant leurs fenêtres. L'été, quand on organise un barbecue dans la cour avec des amis, des trains passent à tout bout de champ, explique Nancy. Ils font du bruit, bang, bang, bang. Nancy a un bébé de 1 an. Elle a vécu sa grossesse au rythme des trains. Philippe travaille à la maison. Nancy est zen, mais Philippe, lui, a la mèche courte. A la mèche plus courte. Une fois, les rails se sont disjoints, raconte Philippe. Quand le train passait, ça faisait badang, badang. La maison shakait. Le jour, le bruit suraigu des roues qui frottent contre le métal était tellement assourdissant que Philippe a pris une vidéo. Ce jour-là, j'étais à bout. André Durand et Patrick Camozzi vivent de l'autre côté de la traque, vis-à-vis de la maison de Nancy. Eux aussi doivent vivre avec les trains. « Il y a des jours où je déjeune, je dîne et je soupe avec les trains », dit André. « Quand je reviens du travail, il y a souvent un train assis quelque part sur la traque. Ils ont acheté leur maison en 2016. En 2007, ils ont eu le coup de foudre, un vieux bâtiment de 2 étages doté d'une grande cour. » Ils ont vécu pendant des années au-dessus d'un bar, alors les trains. On s'est dit qu'on pouvait vivre sur le bord d'une traque, explique André. Mais comme Nancy et Philippe, la réalité les a vite rattrapés. Le plus pénible, précise André Durand, c'est les manœuvres des trains de marchandises. Ils reculent, avancent, ils restent là 10, parfois 20, parfois 40 minutes. Puis là, attachent les wagons. Détache les wagons, bang, bang, ça fait du bruit comme des chocs. C'est agressant, t'as toujours un train dans la face. Ça crée de l'anxiété et de la colère. Ta vie est constamment envahie par le bruit, dit André Durand. Nancy, Philippe, André et Patrick ne sont pas les seuls à subir les affres des trains. Les voies ferrées traversent le quartier d'un bout à l'autre, une longue balafre qui scinde Pointe-Saint-Charles en deux, sans oublier l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, qui vient de construire un centre de maintenance et un terminal à conteneurs qui s'étend sur Wellington en face des commerces et des habitations. Le quartier est enclavé entre des autoroutes, le canal de la Chine et le fleuve. En 1995, le CN a été privatisé. À la fin des années 90, la gare de triage Turcot a fermé et ses activités se sont déplacées à Pointe-Saint-Charles. La cohabitation avec les trains s'est transformée en cauchemar, puis en dictature du CN qui refusait d'entendre les plaintes des résidents. Les citoyens de Pointe-Saint-Charles se sont mobilisés. Ils ont créé un comité, « Nous et les trains », qui rassemble une 60aine de résidents. Ils ont bataillé ferme et tenté de négocier avec le CN qui a accepté de faire quelques changements pour atténuer le bruit. « On n'a pas les moyens d'aller en cour, c'est David contre Goliath. » On n'est pas contre les trains, ils font partie de l'identité du quartier, dit Jocelyne Bernier, membre active de Nous et les trains. Le comité a bâti un dossier costaud, témoignages de résidents, études acoustiques qui concluent que le niveau de bruit dépasse les normes. Les employés du CN portent des casques anti-bruit. Alors, je reprends. Puisque les employés du CN portent des casques anti-bruit étaient entre parenthèses. Le comité a bâti un dossier costaud, témoignages de résidents, études acoustiques qui concluent que le niveau de bruit dépasse les normes, décompte du nombre de trains, leur fréquence, le nombre de wagons, etc. En septembre 2015, le comité a déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada, Les parties ont accepté la médiation, mais le CN a exigé que les plaignants signent une entente de confidentialité. Tout le monde marche sur des œufs, car personne n'a envie de se faire traîner en cour par le CN. Pas facile de négocier avec le CN. Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoît Doré, en sait quelque chose. Il se heurte depuis des années à l'intransigeance assez incroyable du CN, un État dans l'État. Il ne mâche pas ses mots. Le CN est un mauvais citoyen corporatif, dit-il. Ce sont des professionnels des techniques dilatoires. Ils ont du temps et des moyens. Ils ont accepté la médiation, mais ça reste extrêmement difficile. Ils arrivent avec des mesurettes. Il n'y a aucune volonté de leur part pour que ça marche. Les citoyens sont tannés de vivre avec ça. J'ai l'air cynique, mais ça fait 10 ans que je les endure. Le maire Doré m'amène à côté d'une école où un train a déraillé en 2011. Il transportait d'inoffensives billes de plastique. Des rails gisent toujours sur un petit talus qui jouxte la cour où jouent des enfants. Le CN ne les a jamais ramassés. Depuis Mégantic, la crainte des déraillements plane sur Pointe-Saint-Charles. Nancy est inquiète. « Depuis que j'ai un bébé, j'y pense. Ma maison est tellement proche. On joue dans la cour. S'il y a un déraillement, on est là », dit Nancy. De l'autre côté de la traque, André et Patrick partagent les inquiétudes de Nancy. « Les trains roulent vite parfois. On est proche », dit Patrick. « À peine 30 pieds séparent ma maison des trains. Le soir, dans mon salon, je vois la lumière du train. C'est tellement éblouissant que j'ai l'impression qu'il va rentrer dans la maison. S'il fallait qu'il y ait un déraillement. » Nancy ne peut s'empêcher de rêver. Elle aimerait qu'une piste cyclable remplace les voies ferrées ou que Montréal fasse comme New York et convertisse la voie de chemin de fer en parc linéaire. Mais pour cela, il faudrait que le CN abandonne le cœur de Pointe-Saint-Charles. Et ça, ce n'est pas pour demain. Parle de médiation, en septembre 2015, le comité Nous et les trains a déposé une plainte contre le CN à l'Office des transports du Canada. Les deux parties ont accepté d'aller en médiation. Un projet d'entente proposé par le CN devrait être soumis à l'Assemblée générale de Nous et les trains à la fin du mois. L'entente ne couvre que le bruit et les vibrations. L'OTC, donc l'Office des transports du Canada, précise Jocelyne Bernier de Nous et les trains, n'a pas juridiction sur le transport des matières dangereuses, la sécurité, la valeur des maisons et la fréquence des trains. Le CN n'a pas voulu commenter l'affaire pour ne pas compromettre la médiation. « Nous avons déjà mis en œuvre certaines mesures afin de répondre aux préoccupations des résidents », ont-ils précisé dans un courriel. « Notre entreprise est engagée dans une voie de collaboration, de respect et d'écoute. » Pointe-Saint-Charles, nombre d'habitants 13 920 en 2011, en diminution de 0,7% comparativement à 2006. Langue maternelle française, 54%. Langue maternelle anglaise, 26%. 20% des migrants, 33% à Montréal, 51% catholiques, 7% musulmans, 26% n'ont pas de diplôme d'études secondaires, 50% des familles sont monoparentales, nombre de locataires, 73%. Montréal, 64%. Proportion d'habitation à loyer modique, 32%. Montréal, 9%. Revenu total moyen avant impôt, 31 455 $. Montréal, 33 959. Alors voilà, histoire montréalaise signée Michel Ouimet, intitulée « Sur le bord de la traque ». C'est vrai que les trains, ça fait du bruit, mais ça peut être aussi tellement romantique. Un grand merci d'écouter Canal M, Hélène Denis qui vous accompagne, les voix de service magazine. L'émission se poursuit dans quelques instants avec les actualités internationales, culturelles et la tournée des journaux régionaux.
I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like me, by the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up all my money.
Le chant du cygne de David Bowie, c'était la pièce Lazarus tirée de son ultime album Black Star.
Les actualités internationales, maintenant, réforme des impôts de Trump, simplifier les déclarations, réduire l'impôt de la classe moyenne, alléger les taxes des entreprises et miser sur l'impact de ses largesses pour doper la croissance. Donald Trump doit dévoiler demain sa réforme fiscale dont il souhaite faire un des points forts du début de son mandat. Le président républicain a assuré la semaine dernière que son projet de réforme offrirait peut-être la plus forte réduction d'impôts qu'on ait jamais vue. Mais aller au-delà de simples allègements d'impôts et remanier l'ensemble du code fiscal, ce qui n'a pas été fait depuis 1986, promet d'être une tâche complexe. Côté impôts sur le revenu, qui constitue de loin la source majeure du budget de l'État fédéral, le plan fiscal vise à réduire les impôts pour la classe moyenne, a affirmé à plusieurs reprises le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, sans donner de détails sur l'ampleur de cet allègement. Il a seulement promis, alors qu'une idée de campagne était que le taux maximum de 39,6 % d'imposition sur le revenu soit abaissé, que les éventuelles réductions d'impôts pour les plus riches seraient compensées par l'élimination de déductions, un processus très délicat. Restons aux États-Unis. Chicago, troisième ville des États-Unis, semble rester sur la lancée du record de 2016 en matière de violence par arme à feu. Un millier de personnes y ont été blessées par balles et au moins 182 abattues depuis début 2017, selon la presse locale. Selon les données compilées par le Chicago Tribune, ce bilan effectué mardi correspond peu ou prou à celui de la même période l'an dernier, quand la barre du millier de blessés lors de fusillades avait été atteinte le 20 avril et le nombre de morts s'établissait à 184. Le passager violemment expulsé d'un vol United Airlines a été décrit comme agressif par la police de l'aéroport de Chicago, où l'incident est survenu il y a deux semaines, affirmaient hier les médias américains citant un rapport de la sécurité aéroportuaire. David Dao, un médecin américain de 69 ans d'origine vietnamienne, avait été brutalement expulsé le 9 avril d'un vol surréservé en partance pour Louisville, dans le Kentucky, une scène filmée qui avait fait le tour du web et entraîné une vague de condamnations internationales. Selon le rapport, l'un des trois policiers qui l'ont extirpé du vol 3411 a lâché prise alors que le passager se débattait. L'homme se serait alors blessé lui-même en retombant contre un accoudoir. Il avait été hospitalisé avec un nez et deux dents cassées. L'un des policiers de l'aéroport O'Hare a écrit que les trois officiers ont fait usage d'une force minimale, mais nécessaire. Autre démonstration de force depuis l'envoi du porte-avions Carl Vinson, le sous-marin nucléaire USS Michigan, a mouillé dans le port sud-coréen de Busan alors que le président Donald Trump avait promis d'envoyer dans la région une armada très puissante. Selon le site Internet des forces sous-marines du Pacifique de la Marine américaine, le USS Michigan est équipé de plus de 150 missiles de croisière Tomahawk, notamment capables de frappes de précision. Nous voyons une génération entière qui est affamée. Nous devons agir maintenant pour sauver des vies. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé hier la communauté internationale à financer l'aide humanitaire au Yémen afin de mettre un terme à la plus grande crise alimentaire du monde. « 144, c'est le nombre de morts dans l'attaque par un commando taliban vendredi contre une base militaire en Afghanistan », a indiqué hier un responsable du Pentagone. L'attaque est l'une des plus meurtrières menées en Afghanistan contre des civils ou des militaires. La raison expliquant qu'autant de personnes aient pu être tuées est que les soldats ne peuvent pas faire entrer d'armes dans la mosquée ou le réfectoire. Il y avait un grand groupe rassemblé dans un espace limité, a ajouté le responsable américain. Les actualités culturelles maintenant. Alors, le Festival de jazz de Montréal, Sébastien vous en parlait un petit peu plus tôt, a annoncé sa programmation hier matin. Le buffet en salle du FIJM, c'est un texte d'Alain Brunet. Je ne vous le lirai pas au complet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce texte-là. Beaucoup, beaucoup d'artistes. Le Festival international de jazz de Montréal a dévoilé hier sa très imposante programmation en salle. 150 concerts répartis dans 14 séries thématiques du 28 juin au 8 juillet. Notre programmation comporte des artistes de jazz à hauteur de plus de 50 %. De plus, elle se veut ouverte sur le monde, recrutant sur tous les continents, affirmait hier le programmateur Maureen Oxemiri. Les têtes d'affiche, les programmateurs du Festival international de jazz de Montréal, cherchant à satisfaire le plus grand dénominateur commun, seront au rendez-vous. Le nobilisé Bob Dylan et l'oscarisé La La Land, comédie musicale dont on reliera la bande originale. Pour sa part, le public de type adulte contemporain aura droit au résurgent Gypsy King, The OJ's Four Tops, Buddy Guy, Charlie Musselwhite, Pink Martini, Jesse Cook, Melissa Etheridge, Joss Stone et aux ensembles vocaux Harlem Gospel Choir et Montreal Gospel Jubilation Choir. Quant au public enclin à la pop plus actuelle, il adhéra au programme des Bobby Bazzini, Matt Olubowski ou Serena Ryder, ou encore aux branchés Charlotte Cardin, Feist ou Charlotte D. Wilson. Et on parle de jazz de haut niveau avec plein de noms, dont Robert Glasper Experiment, Joshua Redman, précédé par Danilo Perez, Christian McBride, Arturo Sandoval, Jane Bonnet, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est rare que je vous parle de Roger Brulotte. Tout partout en ville, c'est qu'il propose plein de photos et il parle d'Expo 67, Mission Impossible. Hier soir, à la Place des Arts, les invités ont assisté à la présentation du merveilleux documentaire Expo 67, Mission Impossible, produit par les productions Dans la Ruelle. Dans le cadre de la soirée, on a rendu hommage à deux grands artisans au cœur du succès d'Expo 67, Philippe de Gaspé-Beaubien, 2, et Yves Jasmin. Le film est produit par Sylvain Cormier, Michel Barbeau, Guylaine Marois et Éric Ruel, qui nous permet donc de revivre la belle histoire de l'Expo 67. Vous avez reconnu le thème de Mission Impossible, un clin d'œil au titre du documentaire sur Expo 67. Un rideau vert proche des gens, Denise Filiatro lance sa saison alors qu'on inaugure le parc Palomino Brin d'Amour. Dire vrai pour mieux transmettre l'émotion, la directrice artistique du rideau vert, Denise Filiatro, poursuit son examen de la nature humaine en plaçant sa saison 2017-2018 sous le signe de la complexité des rapports humains. Celle-ci a profité du dévoilement mardi pour saluer les fondatrices du théâtre Mercedes Palomino et Yvette Brindamour, dont les noms coiffront désormais un parc niché tout près du théâtre de la rue Saint-Denis, au sud de Villeneuve, entre Drolette et Henri-Julien. Le dévoilement de la plaque d'identification pour le parc Palomino Brindamour est un honneur pleinement mérité, a fait valoir Mme Filiatro. Elle s'est réjouie de voir la ville de Montréal saluer l'apport de deux femmes qui ont marqué la culture québécoise en fondant le Rideau Vert en 1948 pour ainsi perpétuer leur mémoire pour les futures générations. Plan B mérite un A. La nouvelle mini-série de Série Plus est une réussite presque de A à Z. C'est un texte de Marc-André Lemieux dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Pas besoin d'être amateur de science-fiction pour apprécier Plan B, une série qui brosse le portrait d'un homme qui remonte le temps pour sauver son couple. Aimer la bonne télé suffit. En fait, Plan B, c'est avant tout une histoire d'amour, celle de Philippe, interprété par Louis Morissette, un avocat ambitieux, et d'Evelyne Magali Lépine-Blondeau, une violoncelliste promue aux plus grandes scènes. Série Plus présente Plan B les jeudis à 21h, à compter du 4 mai. À moins d'un mois du grand spectacle Bonne fête Montréal, de nouvelles sections du Centre Bell ont été ouvertes. Il y a donc 2000 billets additionnels en vente pour l'événement qui soulignera le 17 mai prochain le 375e anniversaire de la métropole. Mêlant l'humour à la musique, la culture et l'histoire de Montréal, la soirée animée par Guy Lepage et mise en scène par Serge Denoncourt verra défiler une soixantaine d'artistes, dont Louis-José Houd, Marie May, Rufus et Martha Wainwright, Diane Dufresne, Robert Charlebois et Laurent Paquin. Sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, l'Orchestre métropolitain appuiera les différentes vedettes. Il est possible de se procurer des billets pour Bonne fête Montréal en ligne au aaa.com ou sur evenco.ca. Maintenant, les journaux régionaux. Merci, chère Clémence. Un texte d'Isabelle Brisebois dans Le Droit d'aujourd'hui. Chère Clémence, tu n'avais pas encore prononcé un mot à la Maison de la culture de Gatineau que déjà nous savions que quelque chose allait à la fois s'éteindre et naître ce soir-là. Pour ton dernier tour de piste, s'éteindre en nous pour toujours l'espoir de te revoir sur scène un jour, parce que tu l'as dit, c'est fini, F-I-N-I, fini pour vrai. Naître aussi en nous ce désir de s'accrocher à tout jamais à ces précieux moments si tendres, si drôles que tu nous as offerts mardi. Comme toi seul peux le faire. Lettre d'amour à toi, chère Clémence. Les premières notes de « Je ferai un jardin » ont tombé. Et puis, tu es arrivée sur les planches, celles que tu foules depuis 60 ans. Nous nous sommes tous levés spontanément pendant que toi, tu traversais la scène de long en large pour tenter de voir ton public. À qui tu dois ta longue carrière et ton garage double, là où tu as accumulé tous tes produits dérivés. On braille-tu avant ou après, tu nous as dit de ta voix si distincte, lisant sûrement dans nos pensées. Vous avez de la peine? Levez la main ceux qui ne m'ont jamais vu. Étonnamment, plusieurs spectateurs en étaient à leur baptême. Qu'est-ce que vous attendiez? Que je fasse mes preuves? Grande classe, tu as présenté d'emblée tes musiciens, ceux qui donnent vie à tes poèmes, Nadine Turbide au piano et à l'accordéon, Jean-René à l'alto et à la guitare, ainsi que Blanche Baillargeon à la contrebasse. Tu les aimes et ils te le rendent si bien. À tes côtés également, Marie-Michel Desrosiers, la plus belle, la plus fine et la plus belle voix selon toi. Cousine par alliance, vous avez entamé le doux vent d'été, votre complicité contagieuse nous berçant toute la soirée, ponctuant chaque monologue et chanson, la danseuse espagnole Gant de Crin, deux vieilles et un sujet délicat en alexandrin pour ne nommer que ceux-là. Et nous, suspendus à tes lèvres, prêts à te donner la réplique sur commande. Tu nous as parlé de ton père, le poète Alfred, à qui tu as rendu hommage avec la très touchante « L'homme de ma vie », que tu as composé pour lui, et ta mère aussi, qui t'a quitté beaucoup trop tôt, avec la chanson « Maman », tes paroles mises en musique par Ariane Moffatt. Pendant que tu restais assise dans l'ombre, la charismatique Marie-Michel Desrosiers nous a rappelé que Beaudommage fêtait ses 42 ans cette année, avant d'enchaîner avec « J'ai oublié le jour ». Ma mère m'a dit qu'il aborde la maladie d'Alzheimer, Bozo ou encore Châteauguay en hawaïen. Les dents nous rallongeant en vieillissant. Les mots ont parfois trébuché sur ta langue. Ces mots que tu as parfois oubliés, comme dans la vie de factory,
la jaquette en papier, le centre d'accueil, et je vis ma ménopause, mais que tu as su retrouver sourire en coin, comme si tu jouais avec nous. On est-tu bien ensemble? Tu nous as demandé. Trop. Nous sommes trop bien avec toi, Clémence. Et voilà Marie-Michel Desrosiers qui revient sur les notes de « Je ferai un jardin ». Ça sent la fin. En guise de cadeau pour la der des der, elle t'offrira une chanson de Jean-Guy Moreau, « À cœur ouvert », qu'elle reprendra à trois reprises pour trouver le bon ton, celui pour que tous ensemble nous puissions te dire adieu. La voix cassera à quelques reprises, l'émotion étant trop forte. Toi, tu écouteras, la tête penchée, les bras croisés, recueillis. Vous quittez, c'est dur, tu nous diras. Je vais penser à vous. Et n'oubliez pas d'acheter mes produits dérivés, les rires de la foule fusant de toutes parts. Vous avez nourri ma vie, et maintenant, je vais aller faire un jardin. Merci, chère Clémence. Merci. Texte d'Isabelle Brisebois dans Le Droit d'aujourd'hui. En combat contre un trouble qui affecte sa vision et son audition, c'est un texte de Jean-François Gagnon dans La Tribune d'aujourd'hui. Souffrant d'une maladie rare qui a atteint son audition puis sa vision, la cherbrouquoise Marie-Ève Nadeau n'est pas du genre à baisser les bras aisément. Elle considère même que les épreuves qu'elle a vécues depuis sa tendre enfance ont forgé son caractère. La perte d'audition que j'ai subie à l'âge de 2 ans, je ne la perçois pas comme quelque chose de négatif. Non, vraiment pas, assure Marie-Ève Nadeau, une jeune adulte âgée de 19 ans. Rien n'arrive sans raison dans la vie. Et moi, cette épreuve m'a permis de réaliser que je suis capable de surmonter des obstacles. Depuis bientôt 18 ans, la jeune cherbrouquoise doit composer avec une capacité auditive de seulement 30 %. Elle a cependant des prothèses auditives qui lui permettent d'entendre relativement bien. Quant à sa vue, elle a commencé à diminuer sérieusement l'été dernier. En 6 mois, ma vision a baissé d'environ 50 %. Je ne vois pas très bien dans l'obscurité et sur les côtés. On me dit que je risque la cécité, au plus tard dans 10 ans, révèle-t-elle. Marie-Ève Nadeau est aux prises avec le syndrome d'Usher type 2. Il s'agit d'un trouble génétique qui touche à la fois la vision et l'audition. Une large proportion des sourds aveugles en Amérique du Nord en sont atteints. La diminution de ma vue est la pire des 2 épreuves que j'ai à affronter, je dirais. J'avoue que c'est un peu inquiétant, mais je demeure positive malgré tout, affirme-t-elle. Selon Marie-Ève Nadeau, la médecine offre peu ou pas de chances de guérison aux personnes qui souffrent du syndrome d'Usher type 2. Une intervention chirurgicale prometteuse et une thérapie génique existeraient néanmoins. Elles constituent toutes les deux une source d'espoir pour la cherbrouquoise. L'opération se pratique à Cuba et coûte 30 000 $. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat qui démontre concrètement ses effets à long terme. Je suis donc plus encouragée par les essais cliniques qui ont lieu à Boston et qui sont axés sur les gènes. Je suis en attente pour ce traitement qui pourrait me redonner complètement la vue s'il fonctionnait sur moi. À Montréal, on retrouve au moins 2 spécialistes susceptibles de lui apporter une aide concrète. Les traitements que ces derniers seraient en mesure de lui proposer auraient toutefois une portée davantage limitée. Pour le moment, Marie-Ève Nadeau a une vie semblable à celle des autres jeunes de son âge. Elle travaille au Liquor Store à Magog en saison estivale et termine présentement un diplôme en sciences humaines au Collège Champlain. J'ai pensé à faire plus de voyages, mais j'ai décidé d'entrer à l'université en criminologie l'an prochain. J'ai senti que c'était ma place, d'ailleurs. J'ai toujours voulu travailler avec les délinquants. Jeudi, à compter de 18 heures, une activité de financement aura lieu aux galeries Orford à Magog. L'événement qui prend la forme d'un défilé de mode devrait permettre d'amasser plusieurs milliers de dollars au profit de la Sherbrookeoise. L'humoriste Julie Caron a accepté de s'associer à la soirée. Afin d'avoir un coup de main pour organiser ce défilé de mode, les galeries Orford ont fait appel à des élèves inscrits à la technique de commercialisation de la mode du volet collégial au séminaire de Sherbrooke. Des billets sont en vente dans les commerces des galeries Orford, ainsi que sur le site Internet suivant squareup.com/store-événement-sparkle. Vivre en couple au Saguenay coûte plus cher qu'à Montréal. C'est un texte de Normand Boivin dans le quotidien d'aujourd'hui. Si on vit en couple, qu'on travaille au salaire minimum et qu'on a deux enfants, mieux vaut vivre à Montréal qu'au Saguenay. En revanche, les célibataires peuvent s'offrir une meilleure vie dans le royaume que dans la métropole. C'est la conclusion qu'on peut tirer des travaux de l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui, à la veille de l'augmentation du salaire minimum le 1er mai, publie son étude annuelle sur le salaire viable, c'est-à-dire ce qu'il faut à un individu pour vivre dignement et pas seulement manger et se loger. Cela suppose d'assurer sa subsistance, mais également avoir un minimum de loisirs, être capable de s'habiller et s'offrir une sortie mensuelle et deux semaines de vacances, notamment. Ainsi, selon les calculs de l'IRIS, un couple avec deux enfants aura besoin d'un revenu disponible après impôts et allocations de toutes sortes de 52 745 $ pour vivre à Montréal, mais de 54 830 000 au Saguenay. La différence vient des coûts de transport. En effet, même si cette famille pourra se loger pour moins cher au Saguenay avec un coût de 7 488 contre 9 744 à Montréal, elle devra en revanche débourser 11 517 pour un véhicule, alors qu'à Montréal, c'est 6 325. Un grand merci à Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une très belle journée. Profitez-en bien, même s'il fait un temps so-so. Mais demain, on annonce chaud. On verra. Qui vivra, verra, comme le disait tantôt Jean-Sébastien. À bientôt. Merci.